Tribunal, veuillez vous lever.
Tribunal.
Audience.
Signification.
Putatif.
Amiable.
Juridiction.
Convocation.
Ayant
assignation.
Flag procureur.
Amiable.
Tribunal.
Constitution.
Juridiction.
Signification.
Convocation.
Incompétence.
Amiable.
Signalement.
Convocation.
Relax.
Abusif.
Procureur.
Assignation.
Flagrante.
Constitution.
Amphithéotique.
Procureur.
Et juridiction.
Assignation.
Usurpation.
Requête.
Récitation.
Constitution.
Authentique.
Incompétence.
Exécution.
L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir.
Le fil d'Ariane. Des informations pratiques sur le droit et la justice.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc, c'est donc le fil d'Ariane pour je ne sais plus la combienième émission d'ailleurs, maintenant peut-être la quatrième. Aujourd'hui, on va donc le fil d'Ariane, c'est un collectif de quatre avocates qui propose, tente en tout cas de proposer des informations pratiques sur le droit et la justice. Et aujourd'hui, l'émission, on va la consacrer au changement de statut des étudiants étrangers. Elle fait suite à la précédente qui a eu lieu il y a un mois, et donc vous pouvez éventuellement retrouver l'intégralité sur notre blog, que vous trouvez sur le site de Radio Canu. Il suffit après de chercher le fil d'Ariane. Elle est en ligne. Le changement de statut des étudiants étrangers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est, en fait, ça répond à la question. Enfin, on va tenter de répondre à cette question-là, et autant dire que c'est pas très simple de savoir, que faire quand on veut rester en France, qu'on a terminé ses études et qu'on était étudiant étranger. Donc, parce que c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois, le fait d'être, normalement, le titre de séjour étudiant étranger, il a pour objet de faire des études et après de rentrer chez soi pour faire profiter le pays dont on vient des études qu'on a pu faire en France. Et il n'est pas censé donner un droit à rester ensuite. Mais il peut arriver qu'on ait envie soit qu'il y ait des éléments personnels, soit qu'on ait envie de rester en France pour y travailler parce que ça fait longtemps qu'on y habite. Et c'est la raison pour laquelle on essaye d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. Donc concrètement, quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on veut rester en France après avoir été étudiant?
Alors, lorsqu'on souhaite rester en France après les études, alors qu'on était précédemment titulaire d'un titre de séjour mention étudiant, il faut impérativement faire une démarche auprès de la préfecture. Donc, c'est ce qu'on va évoquer tout le long de cette rubrique. C'est la demande de changement de statut. Pourquoi? Parce que pour séjourner régulièrement en France, on doit avoir un document qui autorise le séjour. Et ce document, en fait, il peut être soumis à plusieurs catégories de droits au séjour. Donc, on ne peut pas rester avec un titre de séjour étudiant à l'issue de ses études. On doit basculer sous une autre catégorie. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'évoquer les catégories principales, en fait, qu'on peut solliciter à l'issue des études. Juste une première précision avant de commencer, c'est que tout ce qu'on va dire, là, pendant les 30 prochaines minutes, ça ne concerne pas les citoyens de l'Union européenne. Parce que pour ces derniers, il y a des dispositions spéciales plus favorables et c'est pas du tout les mêmes conditions. Donc première possibilité quand on souhaite basculer donc du statut étudiant à un autre statut, c'est de demander un titre de séjour qu'on appelle mention vie privée et familiale. Alors ça, c'est une catégorie qui permet de séjourner en France au regard des liens personnels et ou familiaux qu'on a tissés en France. Alors il y a deux grandes hypothèses pour ce titre de séjour mention vie privée et familiale. Premier cas, c'est ce qu'on appelle un droit au séjour automatique, j'y reviendrai. Et puis il y a les autres cas beaucoup plus larges, où en réalité c'est un ensemble de choses, différents éléments de sa vie personnelle, familiale, professionnelle, qui vont faire que tout ensemble, on va considérer que les liens tissés en France sont suffisamment forts pour justifier un droit au séjour en France, alors même qu'on remplirait pas les conditions donc de délivrance d'un titre de séjour automatique. Alors, premier cas de figure, les cas de séjour, alors automatique, c'est entre guillemets, parce qu'en réalité, c'est toujours soumis à des conditions, il y a encore d'autres conditions, et des conditions. On va pas détailler vraiment toutes ces conditions aujourd'hui, mais simplement, en gros, ça va concerner les liens familiaux. Par exemple, mariage avec un Français, une Française, mariage avec une personne en situation régulière, avoir eu, au long de ses études, de son séjour en France, un enfant de nationalité française ou être paxé également avec quelqu'un de nationalité française. Alors, selon sa situation familiale, il y a différentes modalités et exigences, mais globalement, mais vraiment en résumé, globalement, ces situations-là familiales permettent en principe d'obtenir un titre de séjour et donc un changement de statut. S'agissant de ces titres de séjour, du coup, d'où l'importance quand on est étudiant, puisqu'on n'y pense pas forcément, on a un titre de séjour, on est autorisé à séjourner en France, à étudier, on travaille à temps partiel, comme on l'a évoqué lors de la précédente émission, mais sachant que lorsqu'on a plus tard le projet de rester en France, il faut d'ores et déjà, durant cette période, en réalité, commencer à rassembler, constituer un dossier et garder surtout tous les documents qui seront utiles, du coup, plus tard, quand on aura terminé ses études et qu'on déposera cette demande de changement de statut à la préfecture. notamment pour ce qui concerne les liens familiaux. Par exemple, lorsqu'on est en couple avec quelqu'un, que ce soit pax, mariage ou même concubinage, bien penser à pas laisser les documents au nom d'un seul des habitants du lieu dans lequel on habite, mais bien tout de suite mettre les deux noms sur tous les documents. Donc quittance de loyer, c'est l'idéal, facture EDF, au téléphone, etc., le bail. Voilà, vraiment garder tous ces documents, sachant qu'on peut être amené à en justifier sur une période qui peut aller jusqu'à un an, notamment pour les paxés, 6 mois pour les conjoints de français. Enfin, il y a différentes périodes, mais en tout cas, ça peut être des périodes assez longues. Donc, bien garder tous ces documents, se constituer un petit dossier pour le après. À côté de ces cas, donc, de délivrance d'un titre de séjour par rapport aux liens familiaux, il y a tous les autres cas. Alors là, c'est beaucoup plus large et en même temps beaucoup plus compliqué, où on a le droit à quelque chose. Non pas parce qu'on remplit les conditions donc strictes prévues par la loi, mais parce que donc un ensemble d'éléments de sa vie personnelle, familiale, professionnelle font que la préfecture a la faculté de délivrer un titre de séjour. Donc elle a un pouvoir d'appréciation et il faut justifier de liens suffisamment forts en France, personnels, familiaux, pour demander ce titre de séjour. Alors concrètement, ça va par exemple être la durée de résidence, le temps passé en France, mais surtout démontrer que pendant tout ce temps passé en France, on a tissé des liens personnels forts, réseau amicale, sociale, des activités par exemple associatives, une insertion professionnelle, des perspectives professionnelles. Autre élément pris en compte, et tout ça cumulé, hein, pas indépendamment mais cumulé, par exemple être en couple, un concubinage stable. Démontrer donc sans pacte, sans mariage, mais avec un concubinage stable. Des enfants nés en France, pas de nationalité française, mais nés en France, scolarisés en France. Voilà, ces différents éléments en fait qui vont pouvoir amener la préfecture à considérer que ces liens sont suffisamment importants pour donner un titre de séjour. Néanmoins, deux réserves. Premièrement, c'est que c'est malheureusement compliqué. Compliqué parce qu'on est toujours dans cette logique qui a été rappelée au début, que le titre de séjour étudiant ne permet en principe pas de rester en France à l'issue des études. Et deuxième raison pour laquelle c'est assez compliqué, c'est que, comme on avait évoqué lors de la précédente émission, toutes les années de résidence passées en France avec un titre de séjour étudiant ne comptent théoriquement, juridiquement pas. C'est des années totalement blanches, c'est comme si on n'était pas présent en France. Du coup, ce qu'on peut faire par rapport à ça, c'est du coup insister sur ce qui s'est passé pendant ces années de résidence, mais on n'aura aucune protection si on n'a eu qu'un titre de séjour étudiant, même si ça a duré 10 ans, par rapport à la simple durée de résidence sur le territoire français. Donc d'où l'importance de bien argumenter sur tout le reste, donc les différents éléments de sa situation personnelle. Donc pour résumer sur cette première partie, première possibilité de changement de statut titre de séjour étudiant à un autre titre de séjour, c'est par rapport aux liens personnels et familiaux tissés en France, si on est en mesure donc de justifier de ces liens, toujours, même règle que d'habitude, avec des documents. Deuxième possibilité qui va être évoquée, c'est un changement de statut par le travail.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Donc, la deuxième possibilité, c'est effectivement de demander un titre de séjour salarié. Donc, quand on finit ses études, des personnes, les étudiants étrangers, peuvent avoir envie de rester en France pour exercer leur métier, pour exercer ce pour quoi ils ont été formés en France. Ce cas est assez particulier, c'est-à-dire qu'à la fin des études, c'est pas parce que on a une promesse d'embauche ou un contrat de travail qu'on peut basculer forcément sur un titre de séjour salarié. Il faut s'assurer de plusieurs choses. Il faut donc effectivement avoir une promesse d'embauche ou un contrat de travail, mais il faut également avoir un employeur qui est prêt à faire beaucoup de démarches pour soutenir la demande titre de séjour salarié. Dans ce cas-là, lorsqu'on va à la préfecture, on dépose donc une demande de titre de séjour salarié et la préfecture va transmettre le dossier à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qu'on appelle la DIRECT. La DIRECT, elle, va exercer un contrôle sur la demande pour savoir si la personne peut bénéficier d'une autorisation de travail. Donc, titre de séjour salarié veut dire demande en amont d'une autorisation de travail. La DIRECT, elle va exercer un contrôle en 3 étapes. Elle va vérifier tout d'abord la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique concernée. Elle va ensuite vérifier l'adéquation entre le travail demandé et les qualifications, l'expérience, le diplôme de la personne, et elle va ensuite vérifier si l'entreprise qui est prête à accueillir la personne est bien dans les règles avec toute la législation du travail et la protection sociale. S'agissant donc tout d'abord de la première étape de ce contrôle, sur la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique concernée. En fait, c'est un contrôle de l'offre et de la demande. L'idée, c'est que la France va recourir à la main-d'œuvre étrangère que si l'offre de travail n'est pas satisfaite par les demandeurs d'emploi présents en France et autorisés en France. C'est-à-dire qu'on privilégie les Français et les étrangers qui sont déjà autorisés à travailler en France avant de délivrer une autorisation de travail à une personne qui avait un titre de séjour étudiant et qui veut rester travailler en France. Concrètement, un étudiant qui a passé plusieurs années en France, qui a obtenu un diplôme, par exemple, en architecture, donc il est prêt à travailler en tant qu'architecte, et ne désire pas nécessairement rentrer chez lui, en tout cas tout de suite, dans son pays d'origine, pour exercer la profession d'architecte, il va déposer une demande à la préfecture. Et ce que va faire la préfecture, donc la directe en fait, ce service qui examine l'autorisation, la demande d'autorisation de travail, va regarder si les Français et les étrangers qui ont déjà un titre de séjour, qui ont un diplôme d'architecture, qui veulent être architectes, ont déjà trouvé un emploi. C'est-à-dire que c'est que s'il y a des employeurs qui cherchent des architectes qu'elle va estimer qu'effectivement on pourrait envisager une autorisation de travail pour cet ancien étudiant étranger. Si elle voit qu'il y a beaucoup de demandes et qu'il y a très peu d'offres, elle va a priori donner un avis défavorable à cette demande d'autorisation de travail. La directe, elle regarde donc également la qualification de la personne et les particularités de l'emploi pour lequel il y a un contrat de travail ou une promesse d'embauche. Donc, elle va regarder quoi ? Elle va regarder le type de diplôme, le niveau de diplôme de la personne, l'expérience qu'elle a pu avoir dans cette branche spécifique, donc les stages, et c'est là où on conseille des attestations de stage avec des appréciations qui sont élaborées pour la personne. Ce que doit prouver, en fait, le demandeur, c'est qu'il est a priori le seul à pouvoir remplir toutes les conditions de cette promesse d'embauche, de ce contrat de travail. Donc plus le métier en fait est spécifique, plus la personne arrive à prouver qu'elle a ses qualités spécifiques, plus elle a une chance d'obtenir cette autorisation de travail. Par exemple, si on revient à notre exemple d'architecte, l'architecte qui dit bah voilà, l'entreprise qui dit « Moi, j'ai beaucoup de contrats avec le Brésil, donc j'ai besoin d'un architecte qui soit tout à fait à l'aise avec le brésilien, avec la langue brésilienne, mais aussi avec le français et aussi avec l'anglais, parce que l'anglais, c'est la langue que tout le monde doit parler. » Si on a une personne qui justifie parler toutes ces langues, ça va entrer en ligne de compte et ça va être un argument de plus pour pouvoir obtenir cette autorisation de travail. Un autre point également, la directe examine la rémunération qui est proposée, et généralement il faut une rémunération à peu près égale à 1,5 du SMIC. C'est encore l'idée qu'on va accepter des personnes travaillent en France que si elles ont en fait des qualités particulières et donc souvent des emplois qui sont bien rémunérés. Enfin, donc la troisième étape, et qui est importante également, c'est le respect par l'entreprise de la législation du travail et de la protection sociale. Je dis qu'elle est importante parce que donc faut pouvoir justifier avec un document, soit de l'inspection du travail, soit d'un organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales, que l'employeur respecte la réglementation. Et je dis que c'est important parce que l'employeur doit être vraiment très clair, doit être prêt à ce que l'administration fasse des contrôles dans ses registres, fasse des contrôles dans son entreprise. J'attire juste l'attention sur le fait que, par exemple, un étudiant qui a un titre de séjour, qui a un titre de séjour étudiant, qui faisait un stage dans cette entreprise, mais qui travaillait plus de 60% du temps du SMIC, soit plus de 964 heures par an, enfin 964 heures réparties sur l'année, si cette personne travailler plus que ce temps-là, c'est-à-dire que l'employeur ne respectait pas la législation du travail. Et c'est-à-dire qu'il peut se faire rattraper ensuite lorsqu'il demande un titre de séjour salarié. Donc, faut vraiment faire attention quand on a un titre de séjour étudiant. Faut bien respecter la législation du travail. Faut que l'employeur vraiment soit honnête et respecte cette législation du travail. Parce qu'après, on peut, voilà, ça peut lui jouer des tours lorsqu'il y a une demande de changement de statut.
Ariane, des informations alors, pratiques sur le droit et la... justice.
Alors, les principes ont été rappelés, du coup, pour demander la carte de séjour salarié. Donc, c'est trois conditions, et l'une d'entre elles, donc, qui est de justifier de la situation de l'emploi pour le métier envisagé. Par contre, donc, ça, c'était le principe. Il y a une exception à cette règle, il y a même des exceptions à cette règle. Donc, s'agissant du contrôle de la situation de l'emploi dans le métier dans lequel on envisage de travailler. Deux types d'exceptions, soit premièrement parce que le métier dans lequel on a une proposition d'embauche, un projet de contrat de travail, est un métier dit en tension, c'est-à-dire un métier où on considère, je cite les termes de Pôle emploi, qu'il manque de la main-d'œuvre pour remplir le poste, donc où il y a un écart important entre l'offre et la demande. Mais attention, parce que il a été rappelé la condition, le principe, pour bénéficier de cette exception, c'est pas du cas par cas, il faut que le métier dans lequel on a un projet de contrat de travail figure expressément sur une liste. Une liste qui, elle, est fixée par un arrêté, donc c'est-à-dire par une décision du ministre, qui fixe donc une liste d'emplois considérés par principe comme en tension, une liste donc par région et par emploi. La dernière liste, elle date aujourd'hui de 2008 et elle fixe donc différents métiers considérés par principe comme nécessitant des personnes pour, enfin voilà, où il y a un gros écart entre l'offre et la demande. Elle fixe une liste de 30 métiers. Alors, cette liste, cette exception, elle est intéressante du moment où on peut justifier d'un projet de contrat de travail pour un de ces métiers. Sauf que la difficulté qu'on rencontre souvent, c'est que les métiers concernés, c'est vraiment des métiers très très précis et finalement assez rares, enfin difficiles en tout cas à obtenir, ou alors on est vraiment dans une situation très spécifique. Je vous donne juste deux exemples pour information, mais la liste de ces métiers, elle est disponible sur Internet. Par exemple, opérateur de formage du verre, ou alors conducteur de machines de fabrication des industries de l'ameublement, pardon, et du bois et matériaux associés. Donc on est vraiment dans des, c'est juste deux illustrations, mais on est vraiment dans des métiers très très spécifiques qui permettent de déroger à ce principe général qui est qu'on doit toujours justifier au cas par cas que l'employeur a cherché à embaucher quelqu'un et que personne d'autre ne pouvait remplir le poste. Deuxième série d'exceptions, on est toujours un peu sur la même logique, mais là on rajoute un critère qui est celui de la nationalité. Ce qu'il faut savoir, et de façon générale d'ailleurs en droit des étrangers, c'est que la France, elle a signé des conventions bilatérales, donc des espèces de contrats entre gouvernements avec plusieurs États. Et dans ces conventions bilatérales, les États, la France notamment, s'engagent sur différents points. Et on a plusieurs conventions de ce type pour le droit au séjour pour les ressortissants étrangers salariés. En principe, ces conventions, donc ces accords, ils sont censés être plus favorables pour les personnes qui sont de cette nationalité. Et donc, grâce à ces textes, ces accords entre États, entre gouvernements, certains ressortissants en France vont bénéficier de droits plus importants que d'autres sur le territoire français. Donc, on a plusieurs conventions de ce type. Pour citer certaines d'entre elles, on a des conventions. Enfin, la France a signé des conventions avec le Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Congo, Gabon, Maurice, Sénégal, Tunisie, mais il y en a également d'autres. Plusieurs conventions, donc, et dans ces accords, les gouvernements entre eux, c'est réciproque, ont prévu une liste élargie de métiers considérés en tension. Donc on est toujours sur la même logique où il y a un écart important entre l'offre et la demande, mais on n'est plus sur une liste restrictive de 30 métiers, on est sur des listes alors soit plus restreintes, soit plus larges. Chaque nationalité a la liste qui lui correspond. Pour citer là encore des exemples qui pourront peut-être mieux parler, c'est par exemple la convention franco-sénégalaise. On a 108 métiers qui figurent sur cette liste. Donc on a plus de chances, plus de probabilités que le contrat de travail dont on bénéficie figure sur cette liste. Et en revanche, pour le Gabon, la convention franco-gabonaise, on a 9 métiers seulement sur la liste. Autre cas, mais je ne vais pas le développer parce que... je vais pas le développer parce que... Parce qu'on est vraiment là sur quelque chose de très très spécifique. Il faut le savoir par contre, c'est qu'il y a un accord entre l'Union européenne et la Turquie à Alors là, c'est pas la même logique. On n'est pas sur une logique de métier en tension, de situation offre-demande, mais plus sur le temps passé en France, la quantité d'années ou de mois travaillés sur le territoire français, enfin d'ailleurs l'Union européenne, qui peut permettre de déroger donc à d'autres principes, enfin ceux qu'on a rappelés tout à l'heure, pour les ressortissants turcs. Donc pour résumer, en principe, on doit justifier des conditions qui ont été rappelées, donc la situation de l'emploi pour le métier envisagé, c'est-à-dire que personne d'autre sur le territoire ne pourrait postuler pour le poste proposé, que son profil il est en totale adéquation avec l'emploi dans lequel on veut travailler du fait de ses qualifications, expériences, et que l'employeur respecte la législation sociale, fiscale, etc. Et par exception seulement, on peut déroger à l'une de ces conditions, qui est celle de la situation de l'emploi, soit parce que le métier proposé, il figure sur cette fameuse liste des 30 métiers, voilà, mais vraiment une liste très précise, soit parce qu'on est ressortissant d'un pays qui a signé un accord avec la France, et que dans cet accord spécial signé avec la France, le métier dans lequel on envisage de travailler figure sur la liste donc conclue.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Alors, ce qu'on vous conseille, donc, quand vous allez à la préfecture pour déposer un dossier, il faut que le dossier soit complet. Il faut que le dossier soit complet et il faut le déposer le plus tôt possible avant l'expiration du titre, au moins 2 mois avant. Donc 2 mois avant la fin de votre titre de séjour étudiant, il faut aller à la préfecture pour faire une nouvelle demande, changement de statut. Dans ce dossier, il y a des pièces qui sont obligatoires. Par exemple, les formulaires CERFA qui sont remplis par l'employeur et qui fait donc mention du contrat de travail, de la nature du contrat, de la convention collective applicable, de l'intitulé de l'emploi, du salaire, des avantages. Il faut également les justificatifs de l'employeur qu'il a déposé une offre sur Pôle emploi, par exemple, mais qui n'a pas trouvé de candidat à l'emploi. C'est-à-dire que en amont, avant le dépôt de la demande, faut que l'employeur ait été actif et qu'il ait essayé de chercher une personne pour ce poste, mais que personne n'a répondu à son offre ou que les candidats rencontrés n'ont pas satisfait aux conditions. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a bien attiré votre attention sur le fait que le soutien de l'employeur est vraiment capital dans cette demande de changement de statut. On vous conseille également d'avoir un courrier de l'employeur qui explique pourquoi vous et pas un autre correspondez à l'emploi. En plus, on vous conseille d'apporter tous les diplômes de la personne demandeur, ancien étudiant, qui puisse justifier de son expérience, également les anciens titres de séjour, et aussi, pourquoi pas, un courrier du demandeur qui explique pourquoi il veut rester en France pour pratiquer cet emploi, depuis combien d'années il est en France, quels sont aussi les liens qu'il a créés, les liens professionnels mais aussi amicaux et sociaux. Voilà, vraiment que la préfecture ait une bonne vision d'ensemble de cette personne, voir qu'elle est bien insérée en France et que son employeur a véritablement besoin de lui.
Juste une petite précision, vous avez plein d'informations sur un site internet, alors c'est la promotion du gouvernement qu'on fait, mais on peut le faire de temps en temps, qui s'appelle immigrationprofessionnelle.gouv.fr, sur lequel il y a déjà le rappel de tout ce qu'on vient de dire, et puis aussi les conventions justement entre les différents états, et des informations pratiques, qui peuvent aussi d'ailleurs être utiles à l'employeur, parce que nous souvent, voilà, il y a l'employeur qui va appeler aussi pour savoir comment je fais, ça permet d'avoir une source en plus gouvernementale, qui permet d'avoir pas mal d'informations. Après, on vous fait croire sur la photo qu'en fait c'est hyper simple, bon, ça n'est pas du tout, mais c'est le cas.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Donc comme on vient de l'expliquer, c'est un peu compliqué, enfin c'est même particulièrement difficile de changer de statut quand on est étudiant étranger, notamment pour passer d'un titre étudiant à un titre salarié. Alors il se trouve qu'il y a une exception, enfin une facilité qui est donnée pour les étudiants qui sortent de master. On en avait un peu parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une mobilisation des étudiants des grandes écoles en 2012, parce que tous disaient que en fait c'est des étudiants en général qui sortent souvent avec des promesses d'embauche ou qu'on fait des stages et l'entreprise veut les garder. Et c'était à l'époque très compliqué, ça reste pas très simple, mais il y a eu une modification du coup des textes, d'abord par une circulaire et surtout ensuite par une modification de la loi qui prévoit, mais donc les conditions sont assez restrictives, que pour les étudiants qui ont fini leurs études et qui sont titulaires d'un master 2, donc du diplôme de master complet, et qui ont bien ce diplôme, c'est-à-dire qu'il est bien terminé, qu'ils ont tout validé, l'ensemble des épreuves, y compris les épreuves un peu annexes parfois, telles que le TOEIC ou des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on a bien rempli toutes les conditions, on peut bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 12 mois, donc d'un an, qui n'est pas renouvelable par contre, mais qui permet pendant cette année-là de chercher du travail, et si on trouve un emploi qui est en rapport avec la qualification, donc avec le diplôme de master, et de mémoire avec une rémunération pareil à un SMIC et demi, j'espère ne pas dire de bêtises là-dessus, à ce moment-là on peut basculer ensuite sur une carte de séjour salarié sans la question de donc l'opposition de la situation de l'emploi et de l'offre et de la demande. Donc concrètement ça permet de déroger à ce système-là qui est quand même très compliqué, et y compris pour des gens qui sont hautement qualifiés. Ça permet en fait de poursuivre finalement le cursus par une première expérience professionnelle, voire de déboucher carrément sur une embauche pérenne, ce qui permet d'éviter justement toute la difficulté qu'il y a sur la situation d'emploi, puisque cette condition-là, enfin, je pense que vous l'avez compris, elle est extrêmement compliquée à dépasser, et c'est quand même assez rare les personnes qui arrivent à justifier de ça, sauf à par exemple, enfin, on parlait des questions des langues, enfin voilà, de montrer qu'on connaît vraiment des langues assez, enfin qu'on connaît plusieurs langues assez particulières. Sinon, c'est assez compliqué de les avoir. Donc, c'est assez avantageux. Bon, encore une fois, les conditions sont restrictives puisqu'il faut quand même avoir un bac plus 5. Alors, on n'est pas obligé d'avoir le diplôme au moment où on fait la demande d'autorisation provisoire de séjour. La demande, il faut la déposer juste avant l'expiration de son titre de séjour. Par contre, il faut avoir le diplôme le jour où on vous délivre l'autorisation. Donc concrètement, je sais que mon titre de séjour va expirer, je vais avoir mon diplôme, mais je ne l'ai pas encore complètement dans les mains. Donc je vais à la préfecture dire, voilà, je vais avoir mon diplôme bientôt, donnez-moi une autorisation provisoire de séjour, on remet un document dans l'attente d'eux, et une fois qu'on peut justifier du master, on obtient cette autorisation provisoire de séjour pour une durée de 12 mois. Par contre, à la fin des 12 mois, si la personne n'a pas trouvé de poste, ou pas de poste correspondant à ses qualifications, ou pas de poste correspondant aux critères de rémunération, à ce moment-là, c'est pas renouvelable, et on se retrouve dans la même situation qu'à la fin d'un titre de séjour étudiant, où il n'y a pas de possibilité de rester sur le territoire, à moins de justifier d'une vie privée familiale, comme on l'expliquait au tout début. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois que c'est bon. Alors du coup, simplement pour rappeler, c'est que toutes ces demandes qu'on fait, soit la préfecture les accepte, soit éventuellement elle peut poser un refus. Donc c'est ce qu'on disait la dernière fois lorsqu'on était sur la question de séjour étudiant, c'est que la réponse de la préfecture, c'est une lettre, ça apparaît comme une lettre recommandée, et ça s'appelle une décision administrative qu'il faut pouvoir contester, en général dans un délai de 30 jours à compter du jour où on l'a reçue. Donc il faut aller assez vite. Et ce qu'on propose, alors après, encore une fois, il ne s'agit pas de faire la promotion de notre métier, mais c'est qu'effectivement, un avocat, ça peut être utile dans ces cas-là, même si on peut faire un recours tout seul. Et alors, sauf exception, alors, tout dépend de la décision, mais on peut aller devant le tribunal administratif directement, ou faire ce qu'on avait expliqué la dernière fois, ce qu'on appelle un recours gracieux, c'est-à-dire écrire au préfet pour expliquer sa situation, expliquer qu'il s'est trompé, lui demander de revenir sur la décision qu'il a prise. Mais par mesure de précaution, puisque ça dépend des situations, il vaut mieux contacter soit une association, type la CIMAD par exemple, pour parler de l'association qui est sur Lyon et qui est compétente là-dessus, soit un avocat pour ça. Et donc, pour plus de détails, on vous renvoie aussi à la précédente émission qui, comme je disais tout à l'heure, est disponible sur notre blog.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Le mot qu'on comprend rien.
Alors, aujourd'hui, dans la rubrique « Le mot qu'on comprend rien », on va vous expliquer ce que c'est qu'une circulaire. Un mot qu'on entend assez souvent, qu'on croit assez souvent comprendre, mais qui a quelques subtilités. Une circulaire, c'est un texte qui permet à des chefs de service d'expliquer une loi, un règlement, toute réglementation, à leur service et aux administrés.